Occitanie, terre d'extase. Extase, parce qu'il nous arrive à tous d'être à ce point admiratif d'un site naturel, d'un édifice, d'une œuvre d'art, que nous nous en oublions nous-mêmes. Larzac, des moutons, pas des canons. Partons, si vous le voulez bien, en quête de splendeur. Marchons sur le causse du Larzac. Ses steppes et ses sentiers vous communiquent d'emblée un apaisant sentiment de bien-être et de robustesse. Ses vastes étendues, son architecture de pierre, son agro-pastoralisme et ses villages agissent sur votre esprit comme une promesse de bien-être, de vie simple et vraie. Larzac, deux syllabes comme un coup de fouet. On serait tenté d'orthographier autrement le nom du causse. Larzac, avec un L apostrophe devant le mot art, A-R-T, comme dans l'art pour l'art. Puis Zac, énergique interjection, pointue comme une flèche pour lancer l'action. Larzac. Ce qui fascine sur ce haut plateau que se partagent les départements de l'Aveyron et de l'Hérault sont pour une part ses paysages, dans un assemblage naturel de douceur et d'âpreté, et d'autre part ses habitants et leur histoire, bien sûr. Traversé à l'époque romaine par une voie fréquentée entre Mio, nommé alors Condato Magus, et Luteva, devenu de nos jours Lodève, le causse offrait un passage important entre Auvergne et Méditerranée. Au Moyen-Âge, le Larzac est un haut lieu templier, notamment à la Couvertoirade, dont la commanderie a bravé les siècles, depuis la fondation de l'ordre religieux et militaire des Templiers au premier tiers du XIIe siècle. Dans ce cadre bientôt millénaire, on serait à peine surpris d'assister tout à coup à une cavalcade de chevaliers arborant la célèbre bannière d'argent à la croix pâtée de gueule. Durant deux siècles, ils furent ici des silhouettes familières. Comme Toulouse et Narbonne, Millau se trouve mentionné sur la table de Peutinger. Cette copie d'ancienne carte romaine tracée en ligne droite était censée guider le voyageur. Cela signifie que de la Méditerranée vers l'Auvergne, le causse du Larzac constituait un lieu de passage fréquenté, d'Agde à Rodez donc. Outre les Templiers, les Hospitaliers se sont rendus utiles en ces lieux. Le nom d'Hospitalier renvoie d'ailleurs à frère Gérard ou Gérard l'Hospitalier, né en Italie au XIe siècle. Il est le fondateur des Hospitaliers de Saint-Jean, devenu par la suite l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Mettons-nous maintenant dans l'oreille les accents musicaux du Moyen-Âge occitan. Grâce à la composition de Ponce Fabre d'Uzès, qui vécut au XIIIe siècle, et à l'interprétation contemporaine de Gérard Zucchetto et de l'ensemble Troubadour Art.
Thank you.
De nos jours, les espaces du Larzac font partie intégrante du parc national des Grands Causses, enfin le parc naturel régional en réalité des Grands Causses, pour être précis. Si l'on en croit les données étymologiques disponibles, le toponyme Larzac viendrait du latin Lariseus. Celui-ci serait relié à la ville grecque de Thessalie, nommée encore aujourd'hui Larissa. On se prend à imaginer la lointaine venue sur le causse d'un voyageur grec portant le nom de sa ville-patrie, comme il y en a eu d'autres, arrivés par la mer pour chercher bonne fortune, notamment à Agathépolis, notre Agde. Prestigieux passé que celui du village de Sainte-Eulalie de Cernon, le lieu abrita durant 5 siècles la plus importante commanderie du Midi de la France. Depuis Sainte-Eulalie, les Templiers organisent le territoire du Larzac et y construisent une grande commanderie. Celle-ci se charge d'organiser l'agriculture de l'espace qu'elle régit. Il faut voir la magnifique salle d'honneur où de grandes conférences avaient lieu qui décidaient des opérations à mener tant sur terre que sur mer. La commanderie est entrée dans l'histoire comme l'une des plus puissantes du sud de la France. Comment concevoir qu'elle contribue aux ressources financières de la présence templière en Palestine? À la fin de l'ordre du Temple, avec la dévolution des biens de l'ordre du Temple, la ville passe aux hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Bien abritée au creux de son vallon, Sainte-Eulalie de Cernon s'adosse à son château séculaire, avec ses tours rondes et carrées. Sa sobre architecture d'ancienne place forte n'a rien perdu de sa force ni de la beauté de ses lignes. La quiétude de ces lieux, hors du temps, stimule l'imaginaire du visiteur. Pour la note contemporaine de l'esprit du voyage qui subsiste par ici, un dispositif de vélo-rail permet de traverser le glorieux paysage entourant ce trésor de pierre que forme la petite cité de Sainte-Eulalie. Le Larzac du temps présent, c'est notamment celui de l'élevage de moutons. Le lait de brebis constitue l'une des ressources phares, cela pour l'usage que l'on en fait depuis près de 1000 ans, pour préparer un fromage qui a gagné ses lettres de noblesse partout dans le monde. C'est bien sûr le Roquefort. La légende veut qu'un jeune berger oublie une partie de son repas dans la grotte où il a coutume de s'abriter. Celui-ci, composé de cahiers de brebis et d'un peu de pain de seigle, se serait mis à moisir. À son retour, le berger découvre que les reliefs de son repas sont recouverts et persillés d'une fine substance de couleur bleue, ce que l'on nommera plus tard le pénicillium, le Roquefort, était né. Le Larzac est une terre de solidarité. Un danger est sur le point de surgir. Les hommes vont se rassembler. Ce sera le serment des 103, unis pour la terre du Larzac.
À la fin des années 60, le vaste causse du Larzac, situé au sud du Massif central, est une zone considérée par les pouvoirs publics comme désolée, uniquement peuplée d'éleveurs de brebis, dont le lait est destiné aux fromageries de Roquefort. Une extension du camp militaire était déjà prévue depuis longtemps. Elle était même souhaitée par certains commerçants et notables, pour dynamiser la région durement touchée par la crise des industries de la peau. Du point de vue de l'armée, cette extension allait permettre d'agrandir considérablement les champs de manœuvre loués aux armées allemandes et anglaises pour leur entraînement. Et du point de vue des spéculateurs fonciers, l'affaire s'annonçait très lucrative. Ils allaient pouvoir vendre chèrement à l'armée des propriétés achetées une bouchée de pain. Mais, Depuis peu, la donne avait changé sur le plateau. De nouveaux cultivateurs s'étaient installés, avec des méthodes et des équipements innovants, mettant en route ce qui a été qualifié de révolution silencieuse. Le 28 octobre 1971, Michel Debré, le ministre de l'Intérieur, annonce à la télévision une extension du camp de 3 000 à 17 000 hectares, soit une multiplication de la surface par 6. Cela entraînerait l'expropriation de tous les paysans installés dans ce périmètre. C'est un coup de massue pour ceux qui vivent là depuis des générations, et aussi pour ceux qui avaient tant travaillé depuis leur installation. L'annonce provoque d'emblée un vent de révolte.
Apprendre par la télévision qu'on est exproprié et que c'est un pays, c'est Dixit, le ministère de la Défense, il y a quelques paysans qui vivent moyenâgeusement. Ça, c'est des choses, c'est ce qui nous a révoltés au départ.
Au début, leur première action, c'est de dire « j'ai servi ». En 1939-45, j'ai été prisonnier en Allemagne. Mon père a fait la Première Guerre mondiale. L'un de mes oncles a été tué au front. Je veux rester sur ma ferme. Et l'armée que j'ai servie, la France que j'ai servie, va me prendre ma ferme. Eh bien, ils viendront, mais je sortirai les pieds devant. Et mon fusil de chasse, je sais m'en servir et je leur montrerai. La première réaction instinctive, c'est celle-ci. Hein, ce n'est pas une réaction, je dirais, de violence. C'est une réaction viscérale de ces agriculteurs.
Une randonnée à pied sur le causse du Larzac vous offre, on l'a dit, un millefeuille historique des plus riches, malgré son aspect désertique que ne dément pas tout à fait sa densité démographique, les quelques mille kilomètres carrés de son étendue semblent faits pour la robustesse, la force des éléments, la force des hommes, la force des événements. Récemment, au regard de son passé, des luttes y ont eu lieu, elles ont fait de ce territoire un laboratoire de la désobéissance civile. Des personnalités d'origine géographique, culturelle, professionnelle et politique diverses ont combattu pour son intégrité. La désobéissance civile n'est pas l'apanage d'un parti politique spécifique, il consiste en un refus populaire d'une initiative gouvernementale jugée erronée. Sans faire l'éloge absolu de celle-ci, voyons d'où vient cette notion. On le sait, elle est empruntée depuis la fin du XIXe siècle à un Américain, descendant d'immigrés d'origine écossaise et française. On peut reconnaître dans son patrimoine la trace normande et donc viking du dieu Thor. Il s'agit bien sûr de Henri David Thoreau. Son rapport transcendantal à la nature fait de lui un pionnier de l'écologie profonde et d'une multitude de courants naturalistes, écologistes et environnementaux. Au plan politique, son concept de désobéissance civile continue d'être une référence et alimente des modes de pensée contestataires. Elle s'exprime sous la forme d'un refus public, pacifique et non violent d'accepter une loi. Une réglementation ou une autorité considérée comme inique par ceux qui les rejettent. Écoutons à ce sujet les explications de José Bové, cofondateur de la Confédération paysanne.
Aujourd'hui, 50 ans après, eh bien, tout le combat contre le réchauffement climatique, pour la défense de la biodiversité, s'affirme dans les mêmes choix. Alors le Larzac, les paysans du Larzac, les 103, quand ils signent leur serment en 1972 en disant « jamais nous ne vendrons nos terres à l'armée, jamais nous ne partirons », décident en même temps de choisir la non-violence et la désobéissance civile comme stratégie de leur combat. Sous l'influence évidemment de mouvements, de personnalités telles que Lanza del Vasto et beaucoup d'autres, ce choix est fait et pendant les 10 ans, des actions très variées de désobéissance civile, de renvoi de militaires, de refus de l'impôt, de construction illégale, prennent évidemment de l'ampleur sur le Larzac et marque les esprits. On peut dire que c'est le premier mouvement social à faire ce choix. Aujourd'hui, 50 ans après, eh bien, tout le combat contre le réchauffement climatique pour la défense de la biodiversité s'affirme dans les mêmes choix. Et je dirais que à travers les 50 dernières années, énormément de mouvements ont redécouvert ces combats qui ont été ceux à la fois de Gandhi pour l'indépendance de l'Inde, de Martin Luther King pour les droits civiques aux États-Unis, et le mouvement social s'est beaucoup aujourd'hui inspiré et continue de s'inspirer de cette forme de lutte. Aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on n'est pas là pour mener une guerre, une bataille, parce que ça n'a pas de sens, et on voit bien les dégâts que ça fait. L'important, c'est de pouvoir assumer individuellement et collectivement un combat. C'est ce qu'on a fait dans les années qui ont suivi, avec le mouvement des faucheurs volontaires, avec tout le mouvement altermondialiste et énormément de mouvements sociaux.
Citons maintenant l'écrivain Michel Lebris, qui prend part à la lutte et que l'on arrêtera sur le Causse. Voici ce qu'il écrit pour son ouvrage paru en 1975 et intitulé « Les fous du Larzac ». La France ne se mobilise pas pour savoir si la Nationale 9 sera ou non sous le tir des canons 3 mois par an et 325 tonnes de roquefort sacrifiées. 80 000 personnes ne se rassemblent pas d'un peu partout sur le Larzac par œcuménisme vague ou par charité chrétienne. Elles se rassemblent parce que les 14 000 hectares convoités par l'armée sont le lieu de représentation d'un débat philosophique fondamental, parce que, en cette affaire, c'est d'eux-mêmes qu'il s'agit, de leur avenir, du monde où ils veulent vivre. Le génie musical de Schubert s'est résonné magnifiquement aussi sur le Causse. En voici une preuve avec le début du célébrissime trio pour piano opus 100, interprété par Lisa Schatzmann, violon, Valérie Aymard, violoncelle, Jean-Sébastien Dureau, piano, dans le cadre du festival et rencontre de musique de chambre du Larzac.
Thank you.
Ce qui caractérise le mouvement de protestation sur le cause du Larzac, qui durera une décennie de 1971 à 1981, c'est la diversité des participants, paysans, philosophes, musiciens, poètes, écrivains, groupements féministes, y viendront soutenir la cause de ceux qui refusent l'extension du corps militaire prévue par le Premier ministre Michel Debré. Ils devront attendre l'élection de François Mitterrand pour que ce projet soit abandonné. Édifiant et intéressant, parce que réaliste et concret, voici le témoignage de Christiane Burguière, épouse du militant Pierre Burguière, elle-même militante. Elle évoque ici son parcours.
Ben, les choses vont changer petit à petit, pas tout d'un coup. C'est vrai qu'au début, quand on a commencé la lutte du Larzac, enfin, moi personnellement, je me sentais concernée, mais je voyais pas ce que je pouvais faire contre une armée, contre un gouvernement. Je trouvais que c'était vraiment... ça me paraissait impossible de lutter. Alors j'essayais de m'intéresser. Bon, je m'intéressais autant que je le pouvais, mais je me sentais pas directement concernée. Comme Pierre, par exemple. Il faut dire aussi que je suis de nature, je ne suis pas tellement militante, je le suis devenue. Et alors que Pierre, il l'était davantage. Il avait fait de la GAC avant. Et ça lui a été certainement plus facile qu'à moi d'aller assurer des meetings ou de parler, de faire tout ce qu'il a fallu faire au début de la lutte. Et puis petit à petit, avec les autres, je me suis sentie davantage concernée. Je participais davantage aux conversations quand il y avait des gens qui venaient. Puis je sentais aussi que c'était difficile de rester à l'écart. Et alors j'ai essayé avec d'autres femmes et même avec Pierre de participer davantage. Aux actions, je participais autant que je le pouvais. En fait, c'était pas toujours facile à cause des enfants. Mais je suis d'une nature assez soucieuse et je me faisais beaucoup de soucis quand il y avait une action, surtout à l'extérieur. Et quand Pierre allait faire des actions à Paris où je savais qu'il pouvait y avoir du danger, j'aimais bien aller avec lui participer. Par tranquillité, plutôt que de me faire du souci à la maison. Mais ma participation s'arrêtait là, ça s'arrêtait uniquement à des actions. Mais quand il s'agissait de porter mon témoignage sur ce qu'était la lutte, ma lutte à moi, ben... je me sentais toujours à l'écart. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient surtout au début que la lutte du Larzac c'était une lutte d'hommes. Mais en fait les femmes on était quand même bien derrière, c'est peut-être parce qu'on n'a pas fait le service militaire et qu'au départ on s'est senti moins concernés que nos maris. Mais en fait on était quand même là, présentes et on faisait tout ce qu'on pouvait mais... enfin, pour moi personnellement ça a été très dur le départ, c'est beaucoup moins dur maintenant. Et tout ce qu'on a découvert dans cette lutte, ben ça a été tellement formidable que je ne regrette rien, même si on a eu des moments vraiment difficiles. Je trouve que c'est très épanouissant. Et même on se dit, si un jour on gagne le Larzac, ben il faudra trouver autre chose parce que on a découvert vraiment tellement de choses qu'il faudra qu'on s'intéresse aux problèmes des autres. On ne pourra plus redevenir comme on était avant.
À cette époque, Jean-Paul Sartre prononce un vibrant soutien à l'adresse des combattants pacifiques. Je vous salue, paysans du Larzac, et je salue votre lutte pour la justice, la liberté et pour la paix, la plus belle lutte de notre XXe siècle. La lutte du Larzac fournit sa part de tensions créatives. Romanciers, cinéastes, musiciens et scientifiques s'en inspirent avec des fortunes diverses face aux gardes mobiles chargés de réprimer le mouvement. Qui dit lutte, combat, peut signifier aussi action non violente. C'est cette voie que choisissent ceux qui agissent pendant 10 ans pour garder le COS, pour que Larzac continue d'être une terre agricole. Lanza del Vasto s'en explique.
Lanza del Vasto est mort à 80 ans. Lanza del Vasto. Ce nom ne vous dit peut-être rien, pourtant cet écrivain italien fut pendant plus de 40 ans l'une des figures de la non-violence en France et en Europe.
Il s'agit de faire une résistance au mal et à l'injustice, mais en employant des moyens justes, de façon à ne pas redoubler la chaîne du mal.
Un principe qu'il découvrait à la fin des années.
La réussite de la désobéissance civile du Larzac reste un phare de l'histoire des mouvements de lutte. C'est pourquoi, en août 2003, 30 ans après le coup d'envoi du mouvement, une impressionnante manifestation a eu lieu sur le Larzac, près du Millau. Celle-ci aurait rassemblé, d'après les organisateurs, quelque 300 000 participants. Il est bien possible que cette année 2023, un événement ait lieu pour commémorer l'appel qui eut lieu voici maintenant 50 ans, le 10 juin 1973. À suivre. La braise n'est pas éteinte, déclare en substance l'altermondialiste José Bové en 2003.
Trente ans jour pour jour après le rassemblement de 1973, le Larzac renoue avec les grandes foules. C'est sur un bref rappel de la lutte des paysans que s'est ouvert cet après-midi ce Larzac 2003.
Pour nous qui avons vécu cette lutte sur le terrain, évidemment c'est quelque chose de fantastique. Et quand on a obtenu une victoire de cette manière-là, eh bien on n'a plus du tout envie d'arrêter de se battre. C'est pour ça que sur le Larzac, depuis 30 ans, les paysans sont toujours debout et que les paysans veulent continuer à changer le monde et à le construire sur d'autres logiques que la logique des engins de mort ou que sur la logique du fric.
Le chanteur Patrick compose musique et paroles de la chanson du Larzac qu'il interprète devant les manifestants. Les paroles se passent de commentaires, en voici quelques-unes. « Mon fils, ne reste pas là, l'homme qui vient est un ennemi. » Mon fils, sur son épaule, il porte un fusil. Mon fils, ne reste pas là. Non, père, je ne te comprends pas, moi aussi. Un jour, je serai soldat. Je veux jouer avec lui. Laisse-moi, père, ne t'en fais pas. Mon fils, ne reste pas là. Mon fils, laisse ta brebis mourir. Mon fils, pour un métier, va-t'en d'ici. Mon fils, ne reste pas là. Non, père, je ne te comprends pas. Être berger me plaît beaucoup et je veux vivre sur le Larzac. Tu sais bien que la terre est à nous.
Mon fil, des mauvaises pas acquis. Mon fil, l'homme qui vient est l'ennemi. Mon fil, sur son espalle il y a un fusil. Mon fil, des mauvaises pas acquis. Non, père, te comprenis pas. Yeu t'avais un jour, serai soldat. Yeu, ama que l'homme voli jugar. Dai, somme père, t'en fagues pas. Mon fil, demores pas aquí. Mon fil d'aï sota fedra, vai mourir. Mon fil, l'oudarie passera, reste parti. Mon fil per un mestier, vai ten d'aquí. Non, paire te comprenis pas. De ce pastre, m'agrado pla Bolivie ou sur l'Arzac. La terre est nostre, ça va être plat. Mon fil, des mauvaises pas acquis. Mon fil, ta maille, t'espère faire partie. Mon fil, tiens tous tes en exil. Mon fil, l'armada, vole-tu à ton pays? Non, paire te compagnie pas. Andis que on a qui per nous sauver.
Après ces quelques éléments de l'histoire du Larzac, continuons notre randonnée. La Couvertoirade. Un templier d'aujourd'hui tient une boutique de bijoux. Un autre vend des cartes postales. Un hospitalier, pas encore croisé, propose des micro-clowns. Le Moyen-Âge nous sourit. La morne pierre tient bon. 1000 ans ne sont rien pour le granit. Passe un marmot, fouette l'air brûlant de son sabre en bois. Coin d'ombre et délice de rare fraîcheur. Garçon de café, patron de restaurant rigolard. Ce n'est pas qu'il prenne le visiteur de haut, il voudrait travailler, d'où leur air un peu provoque. Ils n'en peuvent plus de cette crise qui dure. L'été Covid s'annonçait paisible, trop. Il a tenu sa promesse, le commerce déteste ce calme-là. Notre hôte, celui de la chambre louée, emprunte lui aussi ce ton rigolard, derrière lequel il ne faut pas être grand spécialiste de l'esprit humain pour déceler une mordante inquiétude. Il nous la joue plaisamment, style chat noir, mode Aristide Bruant, du genre « plus je fais semblant de te mépriser, plus je te charrie, plus tu m'aimeras ». Diversité des chemins, les fameuses buissières, ces sentiers étroits où nous aurons quelques surprises en des buis odorants que dévorent présentement de méchantes pyrales. Puis des pistes larges comme un camion et des voies tour à tour sablonneuse, rocailleuse et accidentée. Tout cela n'entame nullement le bonheur. Au contraire, on s'esclaffe de joie à cheminer sur ce réseau unique qui va nous guider pour une bonne centaine de kilomètres. Gratitude envers les milliers des piétons qui sont passés par là et ont ouvert ces chemins au fil des siècles. Dans le village suivant, au bout de la rue du Barry, au milieu d'une immense place arborée, l'ancien lavoir semble aujourd'hui dévolu exclusivement à un cygne esselé au plumage souillé. On vient aussitôt nous raconter que le palmipède se montre inconsolable d'avoir perdu son maître qui n'était autre que le médecin du village. Alors que lorsqu'on est médecin, on devrait pouvoir se soigner tellement bien que l'on évite de mourir. Eh bien non, et le cygne est triste. Le lendemain, départ pour la cavalerie. Brève montée vers la chapelle de Saint-Amand, puis succession de larges pistes fort agréables, entre d'immenses parcelles visitées depuis peu par des moissonneurs. Les guerres de religion se rappellent à la vue du marcheur sous la forme de remparts érigés pour tenir à l'écart la violence. Par cette canicule, on se dit que la nature environnante se demande quand les humains vont se décider à faire quelque chose pour la protéger de cette lumière ardente qui la brûle depuis des mois. Après avoir lu quelques informations sur Sainte Eulalie de Cernon, nous y sommes maintenant vraiment. Ce nom fait bien sûr penser à la cantilène que l'on qualifie de premier texte littéraire en langue romane, la cantilène de Sainte Eulalie. Et cela remonte au IXe siècle. Eulalie, celle qui parle joliment. Le Larzac est un ravissement. Chères auditrices, chers auditeurs, cette émission est terminée. Nous vous remercions de l'avoir écoutée. Nous remercions aussi Histoire TV, José Bové, Christiane et Pierre Burger et l'historien Pierre-Marie Terral, ainsi que Lina. Cette édition de Occitanie Terre d'Extase était animée par Pierre-Jean Brassac avec l'aimable présence et la réalisation technique de Cheryl, avec aussi les énergies bienveillantes de Jean-Luc Palévody, directeur de la station, et de Jacques Lavergne, président d'Esprit Occitanie.